Il n'était pas facile pour des étrangers, des non-juifs, de vivre la fête de la Pâque à Jérusalem. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple lui-même, il y avait un espace qui leur était réservé, et dans la ville, ils n'étaient pas forcément les bienvenus. C'était quand même des étrangers. Pas plus, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on est toujours bien accueillis quand on vient dans nos églises. Alors même, et ceci nous concerne tous, alors même qu'un des traits de Jésus, c'est d'être accueillant. Fondamentalement accueillant, c'est même un reproche qui lui a été fait. Il fait bon accueil aux pécheurs. Et on peut dire, Seigneur, toi seul es infiniment bon, infiniment aimable, parce que aimable et accueillant vont ensemble, et accueillant, est-ce qu'il l'est infiniment? Ça, on le saura au dernier jour. Une de mes dernières défuntes était une grand-mère charmante. Vraiment charmante, mais ses enfants lui faisaient quand même un petit reproche, c'est que elle passait tout le temps les voir à l'improviste. Elle sonnait à la porte avec la même excuse, elle disait « Oh, je passais dans le quartier !» Puis finalement, elle y restait des heures en gardant son manteau chez eux. Et ça m'a parlé d'autant plus que je faisais ça quand j'étais jeune. Quand je passais dans le quartier, je tapais à la porte, j'allais voir mes amis ou mes cousins. Et puis ils ont fini par me demander d'arrêter. Ils m'ont dit « Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas ou ça ne se fait plus. » Et je me demande parfois si nous ne sommes pas de moins en moins accueillants. À tel point que vous savez qu'aujourd'hui, dans de nombreux cas, il faut même envoyer un message, il faut envoyer un texto avant de téléphoner. Nous sommes de moins en moins accueillants, mais ça s'explique. Ça s'explique par le nombre de sollicitations qu'on reçoit de partout. Et puis il faut dire aussi que ça demande un effort. Ça vient effectivement souvent déranger, et ça demande un effort, et que c'est souvent par paresse. Pourtant, il faut s'entraîner, il faut s'exercer à accueillir l'imprévu, parce que c'est comme ça que viendra la mort. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, c'est comme ça que vient le malheur, la maladie, sans crier gare, sans prévenir. La paresse, c'est un des sept péchés capitaux, des péchés sources qui sont à l'origine de tant d'autres, auxquels je vous ai proposé de réfléchir en ce temps de carême, de les parcourir pour les connaître, les reconnaître, les combattre, pouvoir résister. Et le nom moderne de paresse ne correspond pas vraiment à ce qui était à l'origine, ce qu'on appelait l'acédie. L'acédie, saint Thomas d'Aquin dit comme acide, comme acidité. L'acédie, c'est-à-dire une paresse spirituelle. L'acédie, c'est la paresse du religieux qui n'a plus de goût à la prière. C'est une paresse qui n'est pas joyeuse. Elle n'est pas insouciante. Vous savez, il y a des paresses qui font envie. On se souvient d'Alexandre le Bienheureux. On dira, ça fait plutôt envie. Non, celle-là, elle fait pas envie. Et d'ailleurs, elle n'a pas envie elle-même. Des sept péchés sources capitaux, des sept péchés capitaux, c'est le seul qui ne soit pas un moteur, qui ne soit pas une envie de plaisir, de justice, de gloire, envie de rien. Le pape François y a consacré une catéchèse le 7 février sur ce qui est véritablement de l'ordre du découragement. Et il reprenait une distinction qu'on trouve chez saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, entre une tristesse selon Dieu et une tristesse selon le monde. Voilà cette différence que fait saint Paul. Une tristesse selon Dieu qui vient d'une conscience coupable, d'une mauvaise conscience, et celle-là est plutôt bonne parce que ça conduit au repentir, ça peut conduire à la conversion. C'est typiquement la tristesse du fils prodigue qui, lorsqu'il touche le fond de sa déchéance, ressent une grande amertume, qui le pousse à reprendre ses esprits et à retourner dans la maison du Père. Tandis que la tristesse selon le monde, c'est un dégoût de soi, de l'avenir, de la vie, qui naît d'une série de déceptions. Le pape dit, c'est comme si le cœur de l'homme tombait dans un précipice. Et encore, dans un précipice, une longue chute. Parce que le danger, c'est de s'enfermer dans le regret, de laisser cette tristesse-là, cette tristesse selon le monde, s'envenimer dans le cœur. Alors attention, Je ne parle absolument pas de la maladie de la dépression, qui est tout à fait autre chose, qui nécessite des soins appropriés, des soins médicaux, et qui appelle de notre part la plus grande compassion. Et il faut également distinguer cette tristesse spirituelle du sentiment d'abandon. Du sentiment d'abandon spirituel, ce que nous entendrons au moment de la passion. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est ce que la tradition appelait ça la déréliction. Ça n'a rien à voir avec cette acédie, cette mélancolie triste de l'esprit, cette perte de goût. Perte du goût à aimer, du goût à prier. Le moine Évagre le Pontique, qui est l'auteur à la fin du IVe siècle de la première liste des péchés capitaux, expliquait que tous les autres péchés cherchent un plaisir, visent le plaisir, alors que cette tristesse-là, elle se berce justement de sa propre tristesse, d'un chagrin sans raison ni fin. Il disait, c'est d'une certaine façon le plaisir du non-plaisir. Et il fallait y prendre garde, il faut toujours y prendre garde, parce que c'est un démon sournois. Les pères du désert la décrivaient comme un ver qui ronge l'intérieur, qui nous vide lorsqu'on le laisse s'installer. Il faut d'abord le reconnaître et puis se souvenir aussi que là encore, on ne s'en sort pas tout seul. Dans toutes nos difficultés, nos épreuves, on ne s'en sort pas tout seul. Et en voyant le petit groupe de Grecs dans l'Évangile monter à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque, je pensais à tous ces pèlerinages qui ont lieu tout au long de l'année. Tous ces groupes. Hier, il y avait la marche des pères de famille, la marche de Saint-Joseph. Où dans chacun de ces groupes, à chaque fois, il y a des personnes qui ne savent pas pourquoi elles sont là. Qui se sont laissées entraîner. « Allez, viens, viens !» Qui étaient justement dans cette acédie qui n'avait plus goût à rien. Plus envie d'avoir envie. Et qui, portés par ses amis, tirés par ses amis, poussés par l'Esprit Saint, ont trouvé la force. Et ce sont souvent eux qui sont le plus touchés. L'Évangile ne dit pas si la rencontre des Grecs avec Jésus a eu lieu. La réponse de Jésus est assez énigmatique. Elle peut signifier « Non, trop tard, l'heure est venue. » Pas maintenant, l'heure est venue, ils me verront après la résurrection. Ou bien au contraire, on peut l'entendre comme « C'est le signal !» L'heure venue est le signe, pas de l'ouverture aux nations. Ce signe de l'ouverture aux nations a été donné dès le début par la visite des mages. C'est le signe, dit-il à ses disciples, que votre relation avec moi et entre vous va porter du fruit. Je m'explique. Qu'est-ce qui attirait ces Grecs à Jésus? La notoriété, ce qu'on avait entendu dire, ses enseignements, ses miracles. Ces enseignements sont indissociables de leur effet, de leur impact, de leur rayonnement sur les disciples eux-mêmes, ceux qui étaient autour de Jésus. Il y avait autour de Jésus, dans le groupe des disciples, une ambiance, un esprit, quelque chose qui faisait envie. Quand après le lavement des pieds, Jésus dit à ses disciples, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Il faut bien comprendre que cet amour existait avant sa mort. Bien sûr, l'Évangile se fait l'écho de disputes, de tensions entre les disciples, pour savoir en particulier qui était le plus grand. Mais globalement, ils étaient heureux, comme j'espère que nous sommes heureux d'être avec le Christ. Ils étaient heureux d'être avec lui, malgré en plus les menaces qui pesaient, qui s'intensifiaient. Ils étaient heureux d'être avec Jésus-Christ, parce que Jésus n'est pas seulement accueillant, il est fédérateur. C'est lui qui fait l'unité. L'unité par son amour, saint Paul le dit. L'unité dans l'esprit par le lien de la paix. C'est le Christ qui fait l'unité entre nous. Et mieux encore, la force du Christ, est telle qu'elle doit nous permettre de nous supporter entre nous, de supporter même quasiment tout le monde. Jésus est celui qui me permet, par amour pour lui, par sa grâce, de supporter n'importe qui. Pas n'importe quoi, mais pratiquement n'importe qui. Et la paresse, dont la tradition a fait un des 7 péchés capitaux, ne concerne pas tant ce que nous ne faisons pas, notre oisiveté, nos activités, ou notre inactivité. Cette paresse spirituelle, cette tristesse, elle désigne le regard que nous pouvons porter sur le monde et sur les autres. Ce regard triste, ce regard paresseux, qui n'a pas envie de la nouveauté, qui n'a pas envie du changement, qui n'a pas envie des autres, qui ne veut pas les différences, qui ne veut pas effectivement accueillir, supporter leurs besoins, leurs attentes. Et en réalité, au plus profond, c'est la paresse d'accueillir Dieu lui-même, de le chercher, de l'accueillir. Cette paresse-là, ce péché, c'est de ne pas vouloir accueillir en chaque personne, en chaque être humain, Dieu lui-même. Seigneur notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est-à-dire donne-nous de t'accueillir, toi notre Dieu, en chaque personne avec qui nous vivons, que tu nous donnes de rencontrer. Seigneur, donne-nous le goût d'aimer, le goût de la prière. Donne-nous la force de faire ta volonté. Donne-nous le bonheur de te trouver.